avant de prononcer quelques mots. Voici quelques annonces brèves, deux ou trois. Certains, avant la messe, m'ont demandé de parler des sacres effectués le 1er juillet à Écône. J'ai répondu très brièvement et je serai encore plus bref. Je l'ai fait à plusieurs reprises et j'ai écrit aussi plusieurs articles sur mon site. Je vous laisse voir, lire, écouter aussi les sermons que j'ai pu faire dimanche dernier, dimanche avant, enfin deux ou trois dimanches depuis début juillet. Mais très brièvement, il est étonnant donc, que la fraternité, et par son supérieur général, l'abbé Pagliarani, ait demandé à plusieurs reprises le mandat pontifical, donc l'autorisation de Léon XIV, pour que ces sacres soient faits avec l'accord de Rome. Jusqu'à la veille, il a demandé au pape, qui n'a pas répondu une fois de plus. Les sacres ont été faits en grande pompe, 16 500 personnes, 500 prêtres, enfin un décor majestueux, de grands moyens, de publicité depuis février. Et puis l'excommunication qui tombe le 2 juillet, donc là, le lendemain, par le cardinal Fernandez, excommuniant les évêques, les prêtres, tous les fidèles venant de façon régulière dans la fraternité Saint-Pédis, dont une chose bien plus importante qu'en 88, où il y avait que les 6 évêques, les 2 consacrateurs, les 4 consacrés. Donc c'est très très large. Et le 13 juillet, il y a Pagliarani qui demande, qui pose un recours à Rome pour ôter cette excommunication. Un petit parallèle avec 88, le 6 juillet 88, tout ceci est lisible sur la porte latine. J'ai repris aussi ce texte dans mon site pour faire plus simple tout récemment. Donc tous les supérieurs de la fraternité, les supérieurs majeurs de séminaires, de maisons autonomes, de districts, avaient écrit au cardinal Gantin, qui était préfet de la Congrégation des évêques, pour dire non seulement les 6 évêques sont excommuniés, mais nous voulons être excommuniés avec eux. Ce serait une gloire. Une gloire que nous soyons excommuniés avec ces évêques. Donc voilà deux mondes différents, 88-2026. Donc 13 jours plus tard, le 13 juillet donc, 12 jours plus tard, les Pagliarani demandent que cette excommunication soit enlevée. Donc on n'est vraiment pas dans le même. La même atmosphère spirituelle de combat contre la Rome moderniste. Voilà donc, quelques petits mots très très brefs, mais vous pouvez bien sûr écouter ou lire ce que j'ai pu écrire. Je ne suis pas le seul d'avoir écrit et dit des choses sur ce sujet. Un deuxième sujet qui a maintenant fait la une, pas la une, mais qui a fait en début de semaine dernière, donc il y a quelques jours, à une des journaux en Auvergne et puis le Figaro, donc Bélègue, les moines de Bélègue. Donc je ne peux rien en dire parce que j'enregistre mon sermon, mais en privé je peux en parler bien évidemment, mais on ne peut pas encore écrire quoi que ce soit puisqu'on attend que le procureur de la République fasse, après enquête qui se déroule en ce moment, son rapport sur les faits qui se sont passés il y a donc un mois pratiquement, un peu plus d'un mois, le 23 et 24 juin dernier. Enfin, donc, troisième petite annonce, c'est le. J'ai pas de livre aujourd'hui à vous proposer, mais le Scutum Fidei, avec une réponse sur les sacres, justement, un petit peu anticipée, de Mgr Morgan, qui, le 13 juin dernier, écrivait sur les sacres à venir. Il donne les principes de réflexion et de réponse sur ces sacres, très simple. Puis aussi un beau texte que vous pourrez lire de Ernest Hélot, L'amour de la vérité, qui a fait l'objet aussi d'un de mes sermons les semaines passées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, c'est aujourd'hui le 9e dimanche après la Pentecôte, et aussi une très grande fête qui n'est pas solennisée. Partout en France, sauf dans un petit pays de France, la Bretagne, Sainte-Anne. Sainte Anne, donc patronne principale de la Bretagne et aussi du Québec. La bonne Sainte Anne, comme on dit là-bas, la bonne Sainte Anne. Et c'est une grande grand-mère que la bonne Sainte Anne. Alors, je vais utiliser dans ces quelques mots très, très simples pour nous aider dans cette méditation de cette grande personne que fut Sainte Anne, m'aider d'un ouvrage écrit au XIXe siècle par Monseigneur de Ségur, qui a passé quelque temps en Bretagne chez sa sœur, une de ses sœurs, et où d'ailleurs il repose avec la comtesse de Ségur à Pluneret, juste à côté de Sainte-Anne-d'Auray. Donc si d'aventure vous allez en Bretagne, à Sainte-Anne-d'Auray surtout, à quelques kilomètres de Sainte-Anne-d'Auray, il y a Pluneret, avec les monuments funéraires de la comtesse de Ségur et de son premier des 8 fils qu'elle eut, Monseigneur Gaston de Ségur. Voilà ce qu'il nous dit, je résume, et je dirai quelques pages de cet ouvrage qui se trouve dans le 11e tome de ses œuvres, Les Merveilles de Sainte-Anne-d'Auray. Tout d'abord, il commence par donner la généalogie. Qui fut Sainte-Anne? Qui fut-elle par rapport à ses contemporains et dans sa famille? Sainte-Anne, nous dit-il, était de la tribu de Judas, de la race de David. Son père, établi à Nazareth, se nommait Matan, et sa mère, Myriane ou Marie. Trois filles avaient été le fruit de l'union de Matan et de Marie. L'aînée, nommée Marie comme sa mère, épousa Cléophas. Il donna 4 fils, tous glorieux par leur sainteté. Cléophas qu'on connaît, hein. Les disciples d'Emmaüs, Cléophas. Jacques, qui fut depuis un apôtre de Jésus-Christ, connu comme sous le nom de Saint Jacques le Mineur. Jude également fut apôtre. Siméon, premier évêque de Jérusalem. Enfin Joseph, surnommé le Juste, à qui l'Esprit Saint préféra Saint Matthias lorsque les apôtres élurent dans le Cénacle le remplaçant du traître Judas. Ces 4 grands saints devaient être un jour les cousins issus du germain de Jésus-Christ, les propres neveux de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, et tous moururent martyrs. La seconde fille de Matan et de Marie fut Sobée, mère de Sainte Élisabeth, et par conséquent, grand-mère de Saint Jean-Baptiste. Sainte Élisabeth fut donc la propre nièce de Sainte Anne, cousine germaine de Notre-Dame. Enfin, Sainte Anne, dont il est question aujourd'hui, troisième et dernière fille de Matan et de Marie, donnera naissance à Notre-Dame, l'Immaculée. Elle va épouser Joachim, saint homme, très versé dans les Saintes Écritures. Et ils seront éprouvés, puisque durant de longues années, Anne et Joachim n'auront pas d'enfants. Sur le tard, ils auront Notre-Dame. Et on voit la grande charité qui régnait dans ce ménage. La tradition rapporte qu'ils avaient coutume de diviser en 3 parties égales le revenu annuel. La première partie au temple et aux prêtres. La seconde aux pauvres. La troisième à leur propre maison, à la subsistance de leurs serviteurs. Voilà, grande générosité de ce ménage éprouvé par l'absence d'enfants. Mais le bon Dieu va exaucer, comme on l'a vu déjà dans d'autres circonstances, dans l'Ancien Testament, une autre Anne qui donnera naissance à Samuel dans l'Ancien Testament. Eh bien, donc, Saint Joachim et Sainte Anne auront comme fruit de leur union Notre-Dame, l'Immaculée, l'Immaculée Conception. Voilà donc un petit peu la généalogie de Sainte-Anne. Transportons-nous en Bretagne, à quelques siècles de là. Il y eut au 7e siècle un évêque à Vannes, Saint-Mériadec, qui avait élevé à Sainte-Anne un sanctuaire à quatre lieues de Vannes, à l'endroit où existe actuellement le pèlerinage célèbre de Sainte-Anne d'Auray. Pour exciter la piété des fidèles, il y avait exposé à leur vénération une statue de la Sainte en bois peint. Mais, en l'an 699, en février, le sanctuaire fut pillé, détruit, par des sauvages, qui ont tout dévasté. Seule la sainte image demeura intacte à la fureur de ces sacrilèges. Et cette statue en bois peinte, en bois peint, fut enfouie en terre. Ce petit village, qui demeure toujours, s'appelle Ker Anna, village de Sainte-Anne. Mais on avait presque jusqu'à oublier le souvenir de cette statue. Mais à chaque fois que les cultivateurs essayaient de retourner le champ où il y avait eu autrefois une statue, eh bien, c'était impossible de faire quoi que ce soit. Donc ce champ de Bosséno. Donc en 1623, lorsqu'il y eut tous les faits qu'on va raconter avec Yves Nicolazic, donc dans ce champ du Bosséno, on montrait avec une religieuse terreur un espace où, de mémoire d'homme, jamais la charrue n'avait passé. Des quantités de fois, l'expérience avait été faite. Arrivé là, l'attelage se cabrait et reculait effrayé. Prenez garde à l'endroit de la chapelle, disait-on. Prenez garde. Et puis vient l'année 1623. Nous sommes au mois d'août 1623. Vers 11 heures du soir, donc Yves Nicolazic vit tout à coup sa chambre illuminée d'une clarté éblouissante qui provenait d'un flambeau de cire que soutenait en l'air une main mystérieuse. Le prodige se répéta, dura, dit-il, l'espace de deux paters et deux ave. Dans les 15 mois qui vont suivre, ce phénomène surnaturel se renouvela plusieurs fois. Souvent, à son réveil, Nicolazic apercevait devant lui et la main mystérieuse et le flambeau allumé. Plusieurs fois aussi, le soir, quand il rentrait chez lui, le flambeau resplendissait à ses côtés, sans que le vent agitât sa flamme. Près du champ de Bosséno, dans une prairie qui faisait partie de sa ferme, il y avait une fontaine où Nicolazic et Jean Leroux, son beau-frère, venaient boire leurs bestiaux. Un soir d'été, en 1624, une heure environ après le coucher du soleil, comme ils conduisaient leurs bœufs, ceux-ci s'arrêtèrent tout à coup, refusant d'avancer. Les deux fermiers aperçurent avec stupeur, au-dessus de la fontaine, une grande et belle lumière, et au milieu de cette lumière, une éblouissante apparition. C'était une dame majestueuse, toute vêtue de blanc, et tournée vers la fontaine. Ce petit fait que note Mgr de Ségur, il va davantage le décrire en disant la similitude entre Sainte-Anne, qu'il ne connaît pas encore, une dame qu'il ne peut pas nommer, et puis Lourdes, Notre-Dame de Lourdes. Vous allez voir. Et face à cette apparition, qu'ont-ils fait? Ils ont fui dans la panique. Et puis, s'étant rassurés, ils reviennent sur leurs pas, mais tout a disparu. Cette dame en blanc, en vêtements blancs, n'était autre que Sainte-Anne. La fontaine qu'elle visita ainsi plus d'une fois est cette fameuse fontaine de Sainte-Anne, dont les eaux sanctifiées par la Sainte Mère de Dieu, ont été depuis l'instrument de tant de miracles. Nicolazic ne savait pas encore que c'était Sainte-Anne qui était apparue. Craignant les illusions du démon, on voit l'homme sage, l'homme prudent, le démon peut agir aussi. Alors, il se confie à son confesseur, un capucin doré, le père Modeste. Que lui dit ce père? Priez davantage. Ayez une conscience très pure, afin de ne pas donner prise au démon. Ça, c'est des conseils très sages. Il obéit, et Dieu récompensa sa fidélité et sa docilité. par la suite, la belle dame vint souvent le revoir. Par la suite, il y aura encore beaucoup d'apparitions de la dame, qu'il ne nomme pas encore, à ce brave cultivateur Nicolasic. Regardons comment le Monsieur de Ségur fait le parallèle entre Sainte-Anne et Notre-Dame à Lourdes. Sainte-Anne et la Vierge Immaculée ont la même façon de faire. Et pour remuer les peuples, la mère se sert, comme la fille, des pauvres et des petits. Toutes deux, elles apparaissent dans une lumière toute céleste. Toutes deux sont vêtues de blanc, symbole d'innocence et de gloire. Toutes deux gardent longtemps le silence et ne se nomment qu'après avoir longtemps préparé les voies, l'une au pauvre paysan de Kerana, l'autre à la petite bergère de Lourdes. Dans les deux apparitions, les multiples apparitions, à Sainte-Anne et à Lourdes, tout est grave, tout est noble, simple, plein de grâce, de douceur et de sainteté. Le 25 juillet 1624, veille de Sainte-Anne, Nicolasic rentrait chez lui le soir, le chapelet à la main, le cœur tout à Dieu. Au moment où il passait devant une croix de pierre, qui soit encore sur l'ancienne route dorée, l'apparition lumineuse se dressa tout à coup devant lui. Comme toujours, la dame était vêtue de blanc, portée par une nuée, environnée d'éclats, et elle tenait à la main le flambeau allumé. Elle appela Nicolasic par son nom, l'encouragea par de bonnes et douces paroles, et marchant devant lui, elle le conduisit jusqu'à sa demeure. Alors, s'élevant majestueusement dans les airs, elle disparut. Que fera par la suite Nicolasic ? Donc, on a vu avec son confesseur, lui dit, soyez un bon chrétien, restez humble, docile dans la main de Dieu, avec la conscience pure. Mais le confesseur n'est pas le curé du village, ni le vicaire. Alors, le brave Nicolasic va aller à plusieurs reprises voir ces messieurs, le recteur, on appelle le curé en Bretagne le recteur, et puis le vicaire. Et là, ça ne va pas se passer facilement. Tous deux ont un caractère difficile. Ils vont le rudoyer par des paroles, le malmener, le traitant de menteur. Un petit peu comme au début à Lourdes. Le curé ne croyait pas au dire de Bernadette. Ils éprouvent la foi. Ils ne veulent surtout pas que ni Nicolasic ni Bernadette ne soient l'objet du diable. Donc ils éprouvent et même rudoient, comme c'est dur pour des braves gens comme Bernadette et comme Nicolasic d'être rudoyés par leur propre curé. Et pourtant, ils disent vrai. Mais à la différence où à Lourdes, l'abbé Peyramale croira assez facilement quand même, une fois que Bernadette aura dit le nom de la dame, l'Immaculée Conception, autant à Sainte-Anne, ce sera bien plus difficile. Et le curé et le vicaire seront tourmentés dans leur santé, jusqu'à ce qu'ils se mettent à genoux, enfin, même à la fin de leur vie. Ils n'y croyaient pas. Et le bon Dieu, par Sainte-Anne, va les sanctionner dans leur santé, parce qu'ils n'ont pas voulu croire, alors que tout le monde y croit. Ça, c'est terrible. Voyez, on voit que ces prêtres n'ont pas cru à la parole et aussi au miracle qui avait lieu. Donc, je passe. Ça serait trop long de vous raconter tout cela. Mais si vous avez l'ouvrage, ça vaut vraiment la peine de lire ces si belles paroles. Nicolasic mourra en odeur de sainteté. Bien sûr, entre-temps, une chapelle aura été faite et beaucoup de personnes, sans aucun avertissement, vont venir en procession. À l'époque, il n'y a pas le téléphone et tous les moyens que nous connaissons de nos jours, mais de bouche à oreille, ou plutôt par les bons anges, des gens viennent en procession, de façon mais extraordinaire, comme à Lourdes, sans tapage, sans remue-ménage, mais avec piété, avec foi, avec fidélité. Et ce pèlerinage n'a jamais cessé de perdurer durant toutes ces années. Donc on va creuser et on verra la statue sortir de terre. Il faut que je vous lise ça. Yves Nicolasic, lui dit Sainte-Anne, appelez vos voisins, menez-les avec vous au lieu où ce flambeau vous conduira. Vous y trouverez l'image qui vous mettra à couvert des risées du monde. On connaîtra enfin la vérité de ce que je vous dis. Ravi de joie, Nicolasic se lève aussitôt et sort. Le flambeau de Sainte-Anne marchait devant lui, éclairant ses pas. Il arrive au Bosséno, mais là, il se rappelle la recommandation de Sainte-Anne. Appelez vos voisins, menez-les avec vous. La procession commence. Il s'en retourne et revient, bientôt accompagné de son fidèle Julien Lezulite, de Jean Leroux et de trois autres de ses voisins. Sur le champ du Bosséno, où arrivent tout émus les six témoins de Sainte-Anne, le flambeau miraculeux brille toujours, élevé à 3 pieds de terre environ, et les précédents. Le voyez-vous ? Allons, mes amis, allons où Dieu et Madame Sainte-Anne nous conduiront. Ils suivent la céleste lumière, ils entrent dans le Bosséno. Tout à coup, le flambeau s'arrête. 3 fois, il s'élève et redescend. Puis, disparaît dans la terre, à un endroit couvert de seigle vert. Nicolasic s'élance, met le pied à la place où le flambeau s'était enfoncé dans le sol. « Ici, prenez votre hoyo et creusez. » En 5 ou 6 coups de tranche, le hoyo atteint du bois. « Quelqu'un d'entre vous ?» Aille vite au village, quérir un tison de feu et un cierge béni la chandeleur. Quelques instants après, le cierge étant allumé, tous se mettant à l'œuvre, tirent de terre une statue de bois vermoulue d'environ 3 pieds de haut, représentant Sainte-Anne et portant encore les traces de la couleur blanche dont la robe avait été peinte jadis. Les extrémités étaient à moitié détruites par l'humidité. Il s'est quand même passé 900 ans entre la statue et maintenant. En terre, une statue en bois, en principe, elle devrait entièrement disparue. Non, elle n'est pas disparue, il y a encore de la peinture. Extraordinaire. N'osant y toucher avant le plein jour, ils la déposèrent sur le talus du fossé voisin et rentrèrent chez eux pleins de joie. C'était la nuit du vendredi 7 au samedi 8 mars. Dès la pointe du jour, Nicolasic, avec quelques autres amis, revint vers la statue. Malgré les altérations causées par les siècles et l'humidité de la terre, on reconnaissait aisément l'image de Sainte-Anne. Elle reparaissait ainsi à la lumière après plus de 924 ans. N'est-ce pas miraculeux ? Et les miracles vont continuer et continuer et continuer. Et il y aura des pèlerinages qui n'en finiront pas. Une chapelle sera dressée. Il y avait une chapelle, mais elle avait été démolie, on l'a vu, par les bandes de sauvages qui étaient passées, les hordes. Cette chapelle sera refaite. Saint Nicolasic mourra le 13 mai 1745, 13 mai, Fatima avant l'heure. Sainte-Anne et Notre-Dame, toujours présentes l'une avec l'autre. Et puis, là, il serait vraiment trop long de vous lire tout ceci, mais dans cet ouvrage, dans ce que Monsieur de Seguir a écrit, il y a 60 pages de miracles attribuées à Sainte-Anne dorée. Sainte-Anne a été, la dévotion de Sainte-Anne a été transportée au-delà de la Bretagne. On vénère, et c'est un souvenir de jeune prêtre que j'ai, bien sûr, du Québec, où chaque année, pour la Sainte-Anne, donc aujourd'hui, ou les jours environnant la Sainte-Anne, nous faisions un pèlerinage à l'île de Beaupré, donc en face de Québec. Et là, une belle église avec Sainte-Anne, que on nomme pas au Québec simplement Sainte-Anne, mais la bonne Sainte-Anne. La bonne Sainte-Anne. Elle est si bonne. a donné naissance à l'Immaculée, à Notre-Dame. Eh bien, qu'au contact de Sainte-Anne, de la bonne Sainte-Anne, nous ayons à cœur de vénérer les saints que mon Dieu met sur nos routes. Dans les malheurs que nous traversons, les saints nous protègent. Je voudrais terminer, il ne s'agit pas de Sainte-Anne, mais de ce paysage de France si défiguré en ce moment par tant de feux qui ravagent le pays et aussi les orages. Il y aurait pu enveler des orages terribles. On a un peu dévasté la ville, quelques églises, des toits qui sont effondrés sous la grêle. Et puis les orages, pensez à Cotignac cette semaine, qui a été de justesse épargné. Donc Cotignac, Saint-Joseph, eh bien le feu s'est arrêté miraculeusement avant Saint-Joseph et le sanctuaire de Notre-Dame, voyez-vous. Donc les pompiers font leur possible, leur travail, mais le bon Dieu fait de grandes choses encore plus. Il protège à la prière de ceux qui se mettent à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ, devant Saint-Joseph, devant Notre-Dame, devant Sainte-Anne. Mais comment voulez-vous que le bon Dieu ne fasse pas sentir son bras, sa main, devant tant de lois calamiteuses? En juillet a été votée cette loi scélérate de l'euthanasie. Scélérate. Et on voudrait qu'il fasse beau et qu'il pleuve tous les jours, etc. Le bon Dieu est patient, ô combien. Mais le bon Dieu est juste. Alors il faut prier. Il faut prier pour nous être épargnés de ces flammes de l'enfer dont l'image est présente déjà sur nos terres. Fontainebleau, il y a 2 semaines, des milliers d'hectares brûlés en Gironde. Actuellement, je ne sais pas si le feu est conjuré ou pas, mais des feux épouvantables qui n'avaient jamais lieu auparavant dans le sud de la France, ça c'est chaque année, mais des grandes calamités, des orages terribles aussi. Donc demandons qu'il pleuve, on a besoin qu'il pleuve, mais demandons au bon Dieu que cette pluie ne tourne pas en orage, en calamité. La terre est très sèche. Voilà. Mais les cœurs sont encore plus secs que la terre. Les gens continuent à se divertir comme si de rien n'était. Et on met ça sur le réchauffement climatique et d'autres choses, et des fadaises de ce genre. Mais on ne se met pas à genoux. Donc demandons à Sainte-Anne de vivre vraiment en union avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'Immaculée, pour vivre, grandir dans la pratique des vertus chrétiennes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.